Il y a énormément de choses très importantes qui ont été dites ce matin. Moi, je retiendrai, parce que je crois que ça nous concerne directement, cette nécessité de réinvestir le temps, de réhabiter le temps, de le remettre au cœur de nos pratiques. Et je pense que c'est justement une... Il me semble, je me disais que c'est une amorce de réponse à toutes les questions qu'on peut se poser, parce que c'est en réhabitant le temps et en le réinvestissant qu'on va... C'est la seule chose, finalement, dont on peut se rendre maître, dont on peut décider à tout moment de se rendre maître. Et là, on peut peut-être commencer à bouger et à passer à autre chose. Alors, les questions vont certainement être nombreuses.
Merci. Je voudrais juste apporter un petit témoignage qui, je l'espère, relie, du moins dans mon esprit, les trois interventions de ce matin. J'ai eu la chance de rencontrer Jacques Greenwald en 1974, lui il pense que c'est en 75, et c'est pas grave, je vais en profiter, et ça se passait dans un endroit et avec une personne dont je voudrais juste dire deux mots, parce que je crois qu'on en est tous les héritiers, c'est quelqu'un d'assez peu connu, qui a tout simplement introduit en France la pensée écologique. Il s'agit d'Armand Petitjean, qui est mort il y a quelques semaines. Et ça se passait donc chez Armand, notre première rencontre. À l'époque, je vivais comme paysan, pas très loin de Saint-Hippolyte-du-Fort, où habitait Armand. Et d'un seul coup, je me rends compte que j'étais en train de vivre concrètement la bioéconomie de Georges Skourogen. C'est-à-dire que je vivais avec d'autres sur un territoire où les notions de limites, les notions de biologie dans l'économie, on vivait à plusieurs, une vingtaine de personnes, des enfants, des vieux et du passage, etc. Ce qu'on a appelé et ce qu'on a caricaturé après sous le terme générique est tout à fait faux et sur lequel il y aurait beaucoup à dire de communauté, où on essayait simplement, entre autres choses, à considérer les rapports économiques non pas du tout en termes de monnaie, mais en termes d'échanges énergétiques précisément. Et on a travaillé à l'époque avec un mathématicien qui avait pigé ça, qui s'appelait Philippe Courrèges et qui faisait de l'économie physique. Et donc on a rendu compte de toutes ces choses-là dans un certain nombre d'échanges qu'on a pu avoir. Mais ce que je voudrais dire, pour relier encore une fois les trois interventions de ce matin, c'est que cette vie, cette expérience qu'on a appelé à un moment donné tentative communautaire, ou plutôt le projet de micro-société relié en réseau, et on rejoint les interventions de nos amis italiens de ce matin. Quelles difficultés ont rencontrées, et on revient à des questions qu'on a posées hier, et notamment sur l'aspect politique de la question. Bon, 12 ans quand même, c'est pas rien cette expérience. 12 années, Jacques en a été témoin, et bien d'autres. 12 années, Étienne aussi qui est là. Quelles sont les difficultés qu'on a rencontrées? Contrairement à ce qu'on croit, ce n'était pas du tout des difficultés internes à la vie collective sous ces principes évoqués ce matin. Ce n'était pas les difficultés économiques à proprement parler. On était parvenu à une autonomie pour 25 personnes, plus de l'accueil de 50% à peu près. Économie physique, hein, je dis bien, tout ça traduit en termes physiques et pas en termes monétaires. Un exemple, on nous a demandé un jour dans la commune où nous habitions de venir parler de la manière dont on gérait la santé, les problèmes de dentistes, les problèmes de santé du groupe. Et sur les chiffres qu'on avait gardés sur les 5 dernières années, on s'est rendu compte qu'on était beaucoup plus économe dans notre façon de vivre, y compris dans les domaines de la santé. Bien. Quelles sont les difficultés qu'on a rencontrées? La principale difficulté qu'on a rencontrée, et qui est lié à ce qui a été exposé ce matin, c'était la difficulté politique de mettre en place positivement et pendant une durée suffisante pour être probante une expérience complètement différente du système, du macro-système. Et à un moment donné, il y a eu des gens très très bien intentionnés, dont l'un est aujourd'hui dans un haut poste en France puisqu'il est président de l'INRA, veut nous aider et nous dit mais vous êtes plusieurs à vivre sans couverture sociale et donc on va vous faire obtenir 3 ou 4, ça s'appelait des travaux d'utilité collective à l'époque. Et ça a été l'engrenage épouvantable dans lequel il ne fallait pas tomber. Mais évidemment, il y avait la crainte qui reposait en particulier sur mes épaules que s'il y avait un accident, les familles de ces personnes se retournent contre moi, etc. Et je crois que véritablement, aujourd'hui encore, la question reste entière. La pensée de cette expérience, elle était exactement tout ce qu'on est en train d'évoquer, c'est-à-dire comment considérer 40 hectares comme la planète entière, c'est-à-dire comment avoir rapport aux ressources de ce territoire de manière à rendre ce territoire plus fertile, non pas seulement respecter son état stable, mais comment le rendre plus fertile, combien on peut vivre sur ce territoire, avec quel mode de technique et quel rapport au pouvoir. Bon, on avait balayé tous les problèmes. Mais la grande difficulté, c'est que le macrosystème n'acceptait pas cette possibilité. Alors, qu'est-ce qui s'est passé une année après, quand l'expérience s'est arrêtée? Ben, je me suis retrouvé pendant 5 ans à payer, parce que j'ai refusé idéologiquement de mettre des gens au chômage à l'arrêt des travaux d'utilité collective, et pendant 5 ans j'ai dû payer l'URSSAF parce que l'inspecteur du travail était venu pour dire « Ah alors, vous avez des salaires ?»« Ah non, il n'y a pas de salaire. » Donc, avantage en nature. Plof, il cochait dans la case avantage en nature quelque chose qui aboutissait à un paiement supplémentaire de charges sociales. Donc je crois que
Jean-Claude, on va peut-être
aujourd'hui,
on
il
va
faut
peut-être laisser
demander... Simplement, dans les expériences qu'on peut faire politiquement, il faut demander le droit et le devoir à l'expérimentation par rapport à une société suicidaire globale.
Oui, j'aimerais remercier Jacques Grinval pour son exposé introductif, d'autant plus pour compléter un peu ce qu'il avait dit. Et auquel j'adhère évidemment vivement, c'est le dernier livre de Nissim Amzalag, un biologiste et en même temps qui a plusieurs casquettes scientifiques, qui travaille beaucoup sur la génétique et la biologie. Et il se rend compte, il récapitule un peu dans son dernier livre publié aux éditions de CNRS, ce que tu viens de dire là, puis en même temps il se rend compte que lui-même, dans les laboratoires français, plus ou moins on l'encadre pour appliquer les mêmes schémas dans la biologie. Il se rend compte que c'est impossible. C'est impossible d'expliquer la génétique en utilisant ces schémas. Il arrive à une conclusion, je vous invite à mon avis à lire les livres en détail, qu'il constate qu'il n'y a de science que de l'individu et de la technique que du général. Il n'y a que de la technique que du général et de la science que de l'individu. Et il me semble qu'effectivement, l'intérêt des sciences fondamentales, à travers la génétique, ne peut pas utiliser ce schéma. Et tout schéma qui cherche à généraliser, effectivement, ce n'est que de la technique. Et la technique, on sait très bien à quel usage ça a. C'est surtout à des fins d'utilisation industrielle et de rentabilité au plus vite. Donc, qui, évidemment, ne rejoint pas la démarche scientifique fondamentale actuelle.
Juste alors un élément d'information. Dans son grand livre « La loi de l'entropie et le processus économique », vers la fin du livre, il y a toute une discussion où Georges Couragne, n'oubliez pas que ce livre était sorti en 1971, donc il a été écrit à la fin des années 60, il critiquait le triomphalisme de la biologie moléculaire qui prétendait que la biologie moléculaire était le fondement même de toute la biologie. Souvenez-vous à l'époque du livre de Jacques Monod, qui prétendait apporter la philosophie naturelle de la biologie moderne, la biologie moderne. Or, Jacques Monod réduisait toute la biologie moderne à la biologie moléculaire. Et Georges Couragne, qui était mathématicien et donc connaissait bien toute l'application des théories probabilistes de la mécanique statistique à la génétique, il avait fait une critique épistémologique, à mon avis, quasi définitive de ce type de tradition scientifique. Et bien entendu, à l'époque de Jacques Monod, on oubliait complètement qu'il y avait une autre voie de la biologie moderne qui s'appelait tout simplement l'écologie.
Intervention, oui.
Oui, simplement un complément par rapport à ce qui avait été dit hier, notamment l'idéologie ou ce que nous supposons être la vérité, etc. À mon avis, il faut introduire une dimension quand même de modestie Raymond Aron le disait régulièrement, l'humanité construit la société, mais ne sait pas l'histoire qu'elle construit. Donc il faut quand même rester modeste, même par rapport à nos critiques, de croire que nous détenons déjà un savoir absolu.
Bonjour, je m'appelle Julien et je suis désolé d'être un élève de l'école polytechnique après l'intervention de M. Greenwald, que je voulais remercier pour cette présentation de l'épistémologie de la science économique, mais j'aimerais apporter deux petites précisions. D'abord, effectivement, j'ai entendu beaucoup de personnes sourire à la présentation un petit peu naïve d'une vision céleste de l'économie qu'elle allait créer au début. Mais on a toujours beau jeu de juger a posteriori des erreurs de modèle, puisque vous l'avez fait remarquer, la révolution dans la science économique proposée par M. George Scourgan ne pouvait avoir lieu qu'après les théories du darwinisme. Mais c'est mon deuxième point. Au-delà de la justesse du modèle, je voulais rappeler quand même que tout modèle économique qui soit ne sera jamais qu'un modèle. Et pour ça, je vous fais partager deux dictons qui courent dans les milieux de la biologie et de la modélisation en biologie. Que tous les modèles sont faux, mais que certains sont utiles, et que mieux vaut un modèle simple qui dit quelque chose qu'un modèle complexe qui ne dit rien. Et en cela, je pense que la question est beaucoup plus sur l'utilisation qu'on va faire du modèle que sur sa précision et sa complexité. Car pour plus juste que soit la théorie bioéconomique et les modèles économiques qui en résulteront, ce ne sera jamais que des modèles. Et ma question est vraiment de savoir, alors qu'on reconnaît, du moins dans le domaine de la biologie qui est le mien, qu'on reconnaît que les modèles doivent être pris avec beaucoup de précautions et peuvent servir parfois à avoir des indications qualitatives, mais vraiment très difficilement des indications quantitatives, quand parallèlement à ça, je vois que Bercy a besoin d'estimations, a besoin de modèles pour connaître un taux de croissance des années à venir pour boucler son budget, je me demande vraiment la légitimité et l'opportunité d'utiliser des modèles économiques pour récupérer des données qualitatives.
Votre réflexion sur les modèles est exactement celle qu'a fait George Scourgan. George Scourgan est vraiment un des épistémologues de la représentation analytique des processus, et il a toujours averti ses collègues que les modèles ne décrivaient pas la réalité, mais étaient une représentation analytique, c'est-à-dire qui en disait plus sur notre cerveau que sur la réalité. Donc, Georgescu, qui est un mathématicien, ne se faisait aucune illusion sur le potentiel des mathématiques, et il a une phrase célèbre qui est de dire « On peut faire un certain nombre de choses avec les nombres, mais il y a un certain nombre de choses avec les nombres qu'on ne peut pas faire. » Donc, il connaît le discours que vous venez de tenir. J'avais l'impression d'entendre Georges Scourgan.
Ça, c'est une bonne note.
Dominique de Clermont-Ferrand. Une réflexion et une question. Ma réflexion, c'est... on est dans cette pièce-là, écœurante de rococo, et on parle de minimalisme. Voilà, ça, c'est ma réflexion. Et ma question, c'est un peu provocatrice, mais je connais rien à l'économie, donc quelle différence vous faites entre la décroissance et la récession ?
Entre décroissance et récession.
Juste un mot. Moi, je dirais que la récession, c'est une croissance négative. Alors que la décroissance, c'est un changement dans la direction du développement. La croissance, c'est produire plus. Le développement, c'est produire autrement. Et moins, évidemment. Mais surtout autrement. Donc, ce n'est pas la même chose. La récession, c'est un défaut de croissance. Mais on reste dans une logique.
C'est-à-dire, on arrête d'accélérer, mais on ne freine pas.
Et on ne tourne pas le volant. C'est-à-dire, on arrive dans le virage... On ralentit peut-être, mais on n'est pas capable de tourner dans la bonne direction. Donc on se plante.
Je voudrais prendre un exemple criant de problématiques entre les choses chiffrées et les choses non chiffrées. Je ne sais pas combien il y a de personnes qui travaillent à temps partiel à titre salarié ici dans la salle, ça m'aurait intéressé de le savoir. Il y en a quand même quelques-uns. Bon, au niveau du temps partiel, dans les entreprises, je travaille dans une entreprise, on vous dit temps partiel, tel pourcentage. Avec un mi-temps, je peux faire l'enfer et le paradis. Un mi-temps, une semaine sur deux, comme je l'ai pratiqué pendant 6 ans, qui était créateur de la moitié égale d'emplois à côté, enfin restitué au marché, c'est le paradis. Et le mi-temps des caissières de grands magasins qui font 11h, 13h et 17h, 19h du mardi au samedi, c'est l'enfer, qui interdit d'ailleurs de faire autre chose concrètement, etc. Et dans l'entreprise, quand on parle de qualité du temps libéré comme ça, c'est extrêmement difficile à faire passer. J'ai vu un document où on disait, en parlant de la production, la qualité est toujours mesurable. J'ai sauté en l'air, mais je veux dire, la qualité du temps libéré, comment la mesurer? Alors, on fait appel à des données sociologiques ou psychologiques. Est-ce que monsieur est satisfaisant? Combien de taux de... Alors là, on vous dit, ah, mais là, là vous entrez, c'est des sciences molles, c'est... Ça, alors là, c'est beaucoup trop compliqué pour eux, quoi. Mais c'est quand même un combat que je mène. Là, je veux écrire à mon entreprise. On a proposé un poste à 31 heures. Je vais faire écrire par mon délégué national. Qu'est-ce qu'il y a derrière la répartition de ces 31 heures? On en parlait avec un de nos participants hier. Lui, il travaille X jours par semaine, etc. Je veux dire, c'est pas indifférent pour construire un projet qui peut être différent d'une personne à l'autre.
Est-ce que quelqu'un veut enchaîner sur cette question de la qualité du temps?
Non, là, c'est juste pour là, sur cet aspect-là. C'est sûr que si on garde le même style de vie, le même niveau de consommation, ou même si on continue...
Mets-toi debout, François.
Ah. Non mais bon, c'était juste plus un tout petit truc. Hein. C'est que il faut... Ces aspects individuels et collectifs doivent vraiment aller ensemble. C'est-à-dire qu'on ne peut pas... modifier le temps de travail et puis continuer à vivre de la même façon, c'est pas possible. Dans ce cas-là, on rentre dans le mur, justement, on n'a pas assez. Si on veut avoir 3 voitures et qu'on essaie de vivre, je sais pas, ou même une voiture et vivre avec très peu d'argent, c'est difficile. Par contre, bon, si on arrive à vivre sans voiture, c'est plus facile. mais là, il faut vraiment que se combine cet ajustement. À moins consommer, quoi. Une modification aussi de la société en général. Bon, je ne sais pas si je suis clair, mais... enfin, bon.
Alors...
Je peux y aller, là?
Oui.
Bon, oui, je voudrais exprimer d'abord un regret à Jacques, c'est que l'évolutionnisme est un modèle et que tu l'aies présenté comme une théorie scientifique, je le regrette un peu parce que l'évolutionnisme darwinien, c'est ce qui a donné le libéralisme. Aujourd'hui, c'est une théologie laïque dont le libéralisme contemporain est l'héritier. Et je crois que la concomitance entre l'ère victorienne et la découverte de cette pseudo-science de l'évolutionnisme darwinien est assez dangereuse parce que justement, elle a infesté ou infecté toute l'économie moderne. Donc tu as fait effectivement le portrait généalogique, mais tu as oublié ce modèle darwinien qui est omniprésent dans le libéralisme.
Oui, mais tu es d'accord que tu sors là de l'histoire des sciences proprement dites?
Oui, mais
je n'ai pas abordé l'histoire des mentalités.
Non, mais tu as parlé de l'économie et des modèles économiques contemporains. Et donc ça c'est un point de désaccord, mais l'autre regret que j'ai, c'est un très grand regret, on en a parlé ce matin, je pensais que tu allais parler de l'entropie, parce que Le modèle, et encore une fois, on prend le modèle pour ce qui a été dit, c'est-à-dire un modèle, ça nous explique, ça nous permet de comprendre ce qui va se passer. Or, le modèle anthropique de Georges Kouroghan, c'est ce qui permet de comprendre que dans un système fermé, qui est notre système à énergie fossile, nous allons directement dans le mur, et que l'entropie, c'est ce qui donne une orientation au temps dans les phénomènes naturels. Donc, j'aimerais que tu développes un petit peu, que tu parles un petit peu de l'entropie, qui est donc un principe explicatif de Georges Kouroghan, qui nous permet aussi, d'ailleurs, de montrer que le développement durable est une mystification. Donc, si tu pouvais dire 2 mots sur l'entropie...
Merci, Alain. C'est vrai. Bon, c'est vrai que nous ne sommes pas tous des spécialistes de l'histoire de la thermodynamique et de l'épistémologie de la physique, mais en évoquant les noms de Sadi Carnot, William Thompson, Rudolf Clausius, Ludwig Boltzmann, pour moi, c'était évident qu'il s'agissait de la loi de l'entropie. Et je sais que ce n'est pas aussi explicite que ça, effectivement. Non, d'accord. Non, c'est vrai que le thème central que Georgescu apporte et qui est une sorte de bombe qui fait exploser le cadre de pensée de l'économie, c'est effectivement le concept d'entropie. Et même chez les physiciens, ce concept est considéré comme extrêmement compliqué, entouré de controverses illimitées qui ne sont pas terminées, parce qu'il y a plusieurs interprétations de ce que signifie l'entropie. Il y a plusieurs dénominations de la loi de l'entropie. Il y a des gens qui l'appellent le principe de Carnot, d'autres le principe de Carnot-Clausius, d'autres le deuxième principe de la théorie mécanique de la chaleur, d'autres le deuxième principe de la thermodynamique, d'autres Planck, la loi de l'entropie croissante. Bref, c'est un sujet, c'est un thème de l'histoire et de la philosophie de la physique et de la science occidentale en général, qui est très difficile à présenter dans un public, disons, non averti ou de non spécialiste. Et c'est parce que j'avoue, un peu peur que vous me disiez, mais enfin, on n'est pas là pour faire d'épistémologie de la physique et de voir est-ce qu'il y a une compatibilité ontologique entre le modèle de la mécanique quantique, qui est une théorie statistique, et avec le modèle de la thermodynamique phénoménologique. Donc, avouez qu'il y a une sorte de brouillard terminologique et sémantique autour de cette question, dont, lorsqu'on parle de choses très concrètes, il est assez difficile de faire le lien. Donc, je m'excuse auprès de ceux qui se sentent frustrés dans leur souci d'aller au fond des choses, de n'avoir effectivement rien dit sur cette loi de l'entropie. Mais au fond, l'appel que je pourrais vous lancer, c'est renseignez-vous, ouvrez un ouvrage sur la loi de l'entropie, il y en a. Vous avez d'excellents livres sur le second principe. Il y a un livre américain de Hatkins, qui est un physicien chimiste, qui a écrit un excellent bouquin dans une collection chez Freeman qui s'appelle « Le second principe ». Ça a été traduit en français, « Le second principe de la thermodynamique ». C'est une excellente introduction. Et puis, lisez le deuxième chapitre de la décroissance ou de son ancêtre qui s'appelait « Demain la décroissance », à savoir le texte qui s'appelle « L'énergie et les mythes économiques », où là, Georgescu Regen vous donne une très claire explication de ce qu'est la loi de l'entropie et en plus de ses conséquences, de ses applications et de ses implications à la fois pour les phénomènes biologiques et pour les phénomènes économiques. Ah, j'en ai dit déjà quand même quelques mots, mais vous voulez... je veux dire, la loi de l'entropie est donc un principe de la thermodynamique. La thermodynamique est une théorie physique qui repose sur deux principes. Le premier dit qu'il y a équivalence quantitative entre toutes les formes d'énergie, qu'on peut transformer mutuellement toutes les formes d'énergie. Le deuxième principe vous dit qu'il y a une hiérarchie entre ces formes d'énergie, parce que ce qui nous intéresse, nous, c'est essentiellement le travail mécanique. Or, il est facile de passer du travail mécanique à la chaleur, c'est-à-dire l'énergie thermique. Ça, le passage peut être de 100%, alors que l'inverse n'est pas vrai. Autrement dit, le premier principe restait dans le cadre de Descartes, de Newton, de la réversibilité, de la symétrie entre toutes les formes d'énergie, tandis que le deuxième principe introduit une dissymétrie, une irréversibilité, mieux, et ça c'est le mot de Georgescu Regen, une irrévocabilité. À partir du moment où vous avez une dissipation de chaleur, vous ne pourrez pas, et ça c'est le principe de Carnot, retransformer cette chaleur intégralement en énergie mécanique. Donc la loi de l'entropie, qui est née de l'observation par Sadi Carnot du fonctionnement des machines à vapeur, qu'il a idéalisé en parlant du fonctionnement de tout type de machine thermique, et ce modèle de machine thermique est très abstrait, vous pouvez l'appliquer au climat, à la Terre, au système solaire, etc., vous dit que contrairement à la physique newtonienne classique qui a éliminé l'irréversibilité du temps, nous devons réintroduire dans notre vision physique du monde le temps que nous vivons, c'est-à-dire qui va de la naissance à la mort et jamais le contraire.
Michael Cadet, Esprit Simple. Je voulais répondre à Julien tout à l'heure, Georges Escoubis, et peut-être aussi sur les modèles dont parlait Alain. Voilà, moi, ma construction politique, elle a été sur la lecture de François Partant, de Karl Polanyi et de René Goscinny. C'est un petit truc sympa là-dessus. Relisez Obélix et compagnie, il décrit bien l'économie de marché. Et, ça m'a amené à penser que le modèle économique dans lequel on est, il est intrinsèquement croissanciste. Donc voilà, si quelqu'un veut me démentir, j'arrête tout de suite. Mais puisqu'il est intrinsèquement croissanciste et qu'on veut la décroissance, ça veut dire qu'il faut qu'on avance sur une hypothèse de travail qui autorise la décroissance. Au fil de mes lectures, j'ai découvert le distributisme, alors peut-être dans la salle quelques-uns connaissent, et effectivement, ce modèle économique peut être décroissanciste, il a des dérives possibles, il peut être croissanciste aussi, mais au moins c'est une hypothèse de travail qui nous permet la décroissance, alors qu'aujourd'hui l'économie de marché, elle ne nous la permet pas. Si on fait de la récession dans l'économie de marché, on court la catastrophe.
Mais si, exactement, elle le permet. Mais c'est le déclin, la chute et l'effondrement. Mais cette économie de marché permet l'effondrement. C'est ça le drame. Seulement c'était que de la croissance à la limite.
Elle va bien atterrir sur un autre modèle économique. Elle atterrira forcément sur un autre modèle économique. Et donc voilà, la question elle est peut-être, quelle hypothèse de travail pour le modèle économique à venir? Surtout qu'on est en train de se rendre compte qu'effectivement, il est bien en train de se casser la gueule, l'économie de marché.
Mais peut-être qu'il y a une petite note de bas de page historique intéressante. Ce qui intéressait Newton, ce n'était pas seulement la mécanique, c'était aussi l'apocalypse. Newton est un grand théologien de l'apocalypse.
Bruno Clémentin. J'essayais de répondre sur les deux interventions précédentes. Et donc la décroissance, évidemment, personne n'en est propriétaire, ni même de la décroissance soutenable. Mais la décroissance n'est pas basée sur un modèle, parce que on suit évidemment tout à fait ce qu'a dit Georges Escoubis, y compris dans ce qu'il a dit sur les modèles et sur ce que tu as dit. Mais la décroissance est une idée philosophique. C'est une très vieille idée. C'est le partage. Et le partage, c'est ce qu'il y a entre tous ceux qui sont là, sans oublier aucun des êtres du monde vivant. Donc c'est assez simple à comprendre. Et peu importe la taille ou les nombres de coups de pioche et la taille de la pelle, quand on aura fini de creuser le tas et qu'on l'aura empilé derrière en déchets, il n'y aura plus rien à partager. Ça, donc ce n'est pas, il y a une idée philosophique qui précède les modèles, parce qu'effectivement un modèle peut toujours être contrecarré par quelqu'un d'autre ou trouver une finalité, mais les modèles sont effectivement utiles, et le modèle de Georges Escoubis est vraiment, on peut dire, le premier qui nous permet de nous opposer justement aux autres modèles. Sur la croissance et le développement, le site décroissance.org vous propose un bêtisier du développement durable, mais bientôt vous proposera un bêtisier du développement. Alors là, je ne vais pas vous le faire, je vais simplement faire vraiment très résumé. La croissance et le développement sont dans un bateau. Hein. La croissance ou le développement tombe à l'eau, qu'est-ce qui reste? L'autre. Et ils ne sont pas dans un bateau, ils sont dans le même train. Il y en a un qui va plus vite que l'autre. Le train va, selon l'un, plus vite. Mais selon l'autre, il va moins vite. Mais le problème, c'est qu'il faut arrêter le train, descendre et repartir à pied dans l'autre sens. Donc c'est aussi un problème philosophique. Et vous ne trouverez pas le mot développement utilisé autrement dans tous les écrits, y compris les écrits d'économistes. Développement, c'est toujours plus demain. Quelle que soit la manière de faire, vous ne pourrez pas trouver un sens contextuel. Ces niveaux d'entrée en sixième, c'était dans les livres de ma fille, champ sémantique, champ lexical, sens contextuel, le mot développement est toujours à un sens contextuel de croissance. Alors on peut le torturer si on veut, mais donc la croissance et le développement seront évidemment en contradiction avec la décroissance. Et pour répondre rapidement, la décroissance opposée à la croissance qui serait créatrice d'emplois, donc évidemment la décroissance est un facteur de destruction d'emplois. Donc nous avons vécu 30 ans de croissance, on nous a rappelé hier les textes faits en 1972 par Valéry Giscard d'Estaing, donc la croissance créatrice d'emplois, depuis 30 ans, nous avons actuellement en France 9 millions de personnes d'actifs sans emploi rémunéré significatif. Donc la croissance n'est pas un facteur d'emploi ou de création d'emploi, la croissance est un facteur de destruction d'emploi et d'une manière globale et sur toute la planète, y compris maintenant ceux qu'on fait travailler comme des quasi-esclaves. Merci.
Oui, alors moi je ne vais pas prendre longtemps la parole puisque je l'aurai cet après-midi. Je ne veux pas donc en dire plus long que nécessaire. C'est simplement que j'aimerais bien, étant du tiers-monde, j'ai évidemment ma fibre au tiers-monde, et étant impliqué dans les questions du tiers-monde, que l'on ne soit pas amené à circonscrire la réflexion strictement à une question occidentalo-occidentale. Parce que ce qu'il faut absolument mettre en évidence, c'est l'impact justement de cette option économiste, de mécaniste, etc. Elle est venue d'une façon tellement brutale qu'elle a déconcerté 4/5 de l'humanité. C'est-à-dire, à partir du moment où il y a eu l'avènement symboliquement du cheval, on est passé du cheval animal au cheval vapeur, eh bien, il y a eu une déflagration et une rupture extrêmement forte et violente par rapport aux pays du non-occidentaux. Et cela est tellement récent qu'on pourrait parler, par exemple, Napoléon Bonaparte, tout puissant qu'il ait été, ne pouvait pas se déplacer plus vite qu'Alexandre le Grand, que Gengis Khan ou que Jules César ou que tous ses collègues, disons, de l'histoire, tous les potentats qui ont lieu dans l'histoire. On pouvait être puissant, mais on ne changeait pas l'ordre des choses. C'est-à-dire que la nature mettait des limites à nos prétentions et donc nous réguler. À partir du moment où on est sorti de là, dans cette violence finalement, on assiste à quoi? On assiste au fait qu'il y a 1/5 de la population dont je fais partie, qui bénéficie, mais on a beau la critiquer, mais j'en suis quand même bénéficiaire. Je roule en voiture, je m'éclaire, etc. Je bénéficie donc de toutes les inventions, même si ces inventions on est obligé de les remettre en question, ou du moins les réorienter vers quelque chose qui humanise, qui amène de l'humanité, qui amène beaucoup plus. On en a bénéficié. Et c'est quand même le tiers-monde qui a payé très largement, avec ses ressources, ses moyens, à travers la colonisation, eh bien, la concentration fantastique de ressources énergétiques, matières premières, etc., qui ont permis et à ce qu'on aboutisse, à ce club auquel j'appartiens, qui est 5% d'êtres humains sur cette planète qui ont le privilège de prendre l'avion. Vous voyez ? Et ces 5% qui prennent l'avion polluent pour les 95% et épuisent les ressources pour les 95%. Ce que je voulais dire simplement, c'est qu'il ne faut pas que mentalement on circonscrive la réflexion de ce colloque à quelque chose qui ne serait qu'une problématique occidentale, alors que c'est une problématique planétaire et que les 4/5 de l'humanité en souffrent forcément beaucoup plus que le 1/5 de l'humanité qui en bénéficie. Ce qui nécessite, évidemment, il y avait un monsieur de politique.
Pierre, oui. Je pense que vraiment, c'est quelque chose qui a été pris en compte relativement souvent hier. Ça a été, me semble-t-il.
Bon, ben je m'arrête. Je veux simplement dire à ce monsieur de Polytechnique ce que vous avez appris. Il se trouve que nous avons eu des stagiaires, nous, cette année, de Polytechnique à Terre et Humanisme en Ardèche, et qu'ils étaient dans une attitude un petit peu interrogative par rapport à comment investir leurs compétences. J'aurais dit, ce que vous avez appris est très important, mettez-le simplement au service d'une belle histoire d'humanité. Voilà.
Oui, bonjour, Gérald Almarchat de la ligne d'Horizon. Justement, j'ai une demande très précise à faire. Justement, par rapport à tout ce qui a été évoqué ce matin, moi, je serais intéressé de savoir, justement, si on a besoin de préserver les équilibres multidimensionnels, comme on a dit, moi, je souhaiterais savoir quel est le niveau de redistribution qui soit juste, qui soit justement respectueux de ces équilibres. Et justement, en partant justement du témoignage de Jean-Claude tout à l'heure, moi je chercherais à savoir qu'est-ce qu'il faudrait justement savoir, qu'est-ce qu'on doit accepter comme niveau de redistribution au niveau des services publics, au niveau des avantages sociaux, des acquis, et à la limite, est-ce qu'il faudrait renoncer justement à toute cette redistribution? Et c'est ce que disait peut-être Pierre Rabhi. Nous, on est tous des privilégiés ici, mais si on veut se rapprocher justement de la situation des pays du Sud, où nous, on crée nos richesses, justement, en pompant leurs ressources, quels sacrifices on doit faire? Et si on veut pousser, par exemple, cette réflexion à l'extrême, pour moi, personnellement, est-ce que je dois renoncer à ma retraite?
Voilà, j'ai dans les mains un organe exosomatique qu'on m'a remis officiellement, donc je respecte les règles de jeu de ce cénacle, si la présidente m'y autorise. J'aimerais juste apporter le point de vue d'un naturaliste, c'est quelqu'un qui étudie les organismes vivants. Cette approche est souvent très analytique, peut aussi justement se référer aux approches assez mécanistes qui ont été décrites. J'essaie également d'être un écologue, c'est-à-dire d'avoir une compréhension du fonctionnement des systèmes vivants et d'avoir une vision plus holistique. Et ce préambule, pour apporter quelques éclairages sur des notions qui ont été plusieurs fois abordées dans les débats, qui est justement aussi un certain nombre de conflits conceptuels que nous avons autour de certains mots, de certains concepts précisément. Et le mot croissance, tout le monde nous dit, mais c'est naturel la croissance. Regardez, vous plantez une graine de baobab qui pèse moins d'un gramme, avec le temps, ça vous donnera un baobab de plusieurs tonnes, il a cru. Vous observez chez nous, dans les Alpes, ce qui se passe lorsqu'un glacier se retire, le rocher nu, petit à petit, se vêtit de lichen, puis de mousse, puis de petites plantes herbacées, saxifrage, enfin, un mélèze peut germer ou un bouleau, et le temps passant, encore une fois, on aura une forêt. Et donc, on a aussi l'impression que là, on a cette croissance, une biomasse qui a cru. Seulement, malheureusement, on a arrêté la comparaison là, quand on a voulu conforter certains de ces a priori pour calquer nos modèles de fonctionnement économique, puisqu'effectivement, l'écologie montre qu'il y a également des cycles et que lorsque le baobab va périr, un certain nombre d'organismes vont s'occuper de ce qui a fait cette fameuse biomasse et recycler tout ça dans un système vivant parfaitement cohérent. De même, la forêt qui a cru en biomasse sur le front du glacier se retirant peut subir une catastrophe ou peut atteindre ce qu'on appelle un climax et à ce moment-là fonctionner en n'ayant plus d'accroissement de biomasse, en ayant simplement des successions au niveau des espèces qui sont présentes. Ce n'est pas pour vous embêter avec des questions théoriques comme ça, mais je trouve important de montrer qu'en fait, de réaliser à quel point cette notion de croissance, ben, ça nous paraît inéluctable. Et certains se posaient la question très honnêtement hier, nous posaient la question, mais comment répondre à ces gens qui me disent, mais c'est quelque chose de naturel, la croissance. Alors, justement, croissance et développement, on dit bien, ben voilà, un têtard qui se développe en un crapaud ou en une grenouille, ben voilà, il a subi un développement. On utilise aussi ce terme de développement. Mais vous voyez bien qu'il y a des connotations extrêmement différentes. Et à propos de la belle affiche que nous avons sous les yeux, qui montre une pseudo-courbe de décroissance, mais qui n'est que la surface de la Terre sur le fond de l'univers, justement, j'aimerais aborder un autre aspect qui a été parfois évoqué ici, qui est celui d'une autre croyance profonde qu'on a dans notre société, que, à propos de la présence de notre espèce Homo sapiens sur la Terre, indistinctement que ce soit des Homo sapiens du Sud, du Nord, à peau blanche ou à peau rouge ou autre, eh bien, cette population mondiale n'a fait que croître, malgré des accidents terribles. Je veux dire, des accidents dans l'histoire, des massacres, et on en a encore constamment, ça c'est une réalité. Et ça, je pense que nous pouvons aussi constater, comme on l'a fait pour le système économique qui va droit dans le mur si on ne change pas de cap, je pense tout à fait que c'est aussi une réalité à prendre en compte, que si on ne corrige pas la chose, on va droit dans le mur. Alors, c'est vrai que l'étude des systèmes vivants montre bien que quand les lemmings se reproduisent et deviennent très nombreux, il y a ce qu'on appelle des pullulations. Mais derrière, il y a très souvent les chouettes harfangues, par exemple, qui sont parmi les prédateurs des lemmings, qui elles-mêmes ont plus capacité, peuvent élever plus de jeunes. Donc, on va avoir derrière cette pullulation de lemmings des prédateurs qui vont eux-mêmes augmenter leur population et réguler. Enfin, c'est assez classique et connu. La population humaine, entre autres par son développement cérébral, par les organes exosomatiques que nous avons créés, est capable d'échapper apparemment à ces lois de la nature. Apparemment, mais comme on est aussi assez arrogant comme espèce parmi les autres, on évacue ceci. Donc la question est maintenant décroissance.
Florian, je pense que c'est mon organe exosomatique à moi me dit qu'il est temps d'arrêter.
Oui, alors
mon organe somatique me dit qu'il est temps de manger.
Alors d'accord, très bien. C'est bien, mais je pose juste la question, la décroissance de la population, comment la penser de façon soutenable?
Voilà. C'est exactement et on peut en reparler. Le thème de cet après-midi, rendez-vous à 14h.